façon de traiter les gens arrive à tous ceux qui osent contester ce qui s'est passé. Et on voit en effet qu'il y a là qu'on peut au moins appeler des massacres de masse qui se sont produits. Alors il y a eu des témoignages à l'époque, des enquêtes déjà à l'époque et au fur et à mesure, mais ce rapport des Nations Unies regroupe un peu tout ça et fait l'effet quand même d'une bombe.
Oui, c'est une bombe qui n'apporte rien de neuf, parce que ce rapport qui est volumineux, plus de 500 pages, est en fait un copier-coller de tous les rapports qui avaient été publiés à l'époque, depuis Amnesty International, les ONG locales, le gouvernement congolais de l'époque qui avait fait un livre blanc en 99. Et donc, les Nations Unies ont repris tous ces témoignages bout à bout. Alors là, ce que je veux dire 15 ans après, c'est que les faits sont réels. Tous ces faits, moi-même je l'ai vu, beaucoup de journalistes l'ont vu, il y a eu une sorte de course-poursuite dans les forêts congolaises de ces gens, de ces Rwandais qui avaient participé au génocide et qui fuyaient.
Participer ou non, parce qu'il y a une communauté Hutu du Congo qui est là depuis fort longtemps.
Exactement, et qui fuyaient en emmenant avec eux des civils Rwandais, réfugiés, ils les emmenaient dans la forêt. Il y a eu une course-poursuite de ces gens et il y a eu des tueries, et donc le mérite du rapport de l'ONU, c'est d'avoir ressorti toutes ces choses, de montrer que cette guerre a été une guerre terrible, une guerre accompagnée de tueries et d'assassinats de masse. Mais le défaut du rapport de l'ONU, c'est que étant publié 15 ans après les faits, les enquêteurs auraient pu faire l'effort de retracer la situation dans son contexte, qui était le lendemain du génocide, avec des problèmes de sécurité pour le Rwanda, et aussi de faire l'analyse des forces en présence. Parce que dire, mettre une étiquette globale, les forces congolaises, rwandaises, burundaises, ougandaises, tirées entre les deux, comme si tout le monde avait participé, ça n'est pas exact. Hélas, je pense que ce rapport est un peu dans la région, on me dit, c'est plutôt un exercice de deuil. On l'a publié pour clore l'affaire, pour dire que voilà, on a mis les
clore l'affaire, on estime à peu près 250 000 personnes qui sont... Oui. Qui ont été massacrés de cette façon. C'est quand même un deuil un peu difficile, 250 000.
C'est très difficile pour les familles congolaises et rwandaises qui ont perdu les leurs. Et donc, ça provoque un très grand sentiment d'injustice dans la région, où tous ceux, notamment les Congolais de l'autre côté de la frontière, qui disent, mais au Rwanda, on rend hommage, avec raison, à juste titre, aux Tutsis qui ont été massacrés durant le génocide. Et nous, lorsque nous parlons des nôtres qui sont morts, on doit se taire, on ne peut pas le dire. Et donc là, il y a un problème.
Colette, est-ce qu'on peut parler de double génocide?
Je crois que ce terme est vraiment n'est pas juste. Je pense qu'au Rwanda, il y a eu un génocide qui répond à toutes les définitions du terme. C'était la volonté d'exterminer un groupe humain donné pendant un temps déterminé, etc. Donc là, c'est absolument incontestable. Au Congo, il y a eu des actes de guerre, des massacres, des tueries, et avec des débordements, avec des choses abominables, des crimes contre l'humanité qui ont été commis par des forces armées, y compris les forces armées rwandaises. Mais il n'y a pas eu de volonté, ni de capacité, mais non plus de volonté d'exterminer un groupe humain
en tant que tel.
La définition du génocide, à mon avis, ne s'applique pas à ce qui s'est passé au Congo. Mais quelle importance, des crimes contre l'humanité sont eux aussi imprescriptibles et doivent être connus, et à mon sens, devraient un jour être jugé.
Vous êtes une observatrice très compétente sur cette région et sur cette histoire du génocide, pas des génocides, du génocide, je reprends vos termes. Est-ce que votre point de vue a changé au fur et à mesure entre 1994 et aujourd'hui?
Non, c'est-à-dire qu'au départ, j'avais l'impression que le Front patriotique rwandais était un peu dans la lignée des mouvements de libération, si vous voulez, qu'il combattait pour le retour des Tutsis au Rwanda et tout ça. Mais après, lorsque j'ai vu les pratiques au Congo, qui étaient des pratiques de domination, d'exploitation des ressources et de mépris aussi à l'égard des populations congolaises, là, ça m'a vraiment dégrisé, si on peut dire. Et maintenant, les choses ont encore changé, Dieu merci. La région évolue et maintenant on est dans une bonne entente entre dans la région vers la conclusion d'accords de coopération.
Vous croyez à ces accords entre la République du Congo et le Rwanda?
Assez. Oui, assez. Parce qu'ils
ça,
sont...
c'est votre optimisme.
Non, non. Ils sont dictés par le réalisme. Ils ne sont pas dictés par le, les grandes puissances. Quoi. Enfin, encore que les Américains ont donné un sérieux coup de pouce pour que ces accords se fassent. Mais je pense qu'ils sont dictés par le bon sens, le réalisme. Les gens du Congo